Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Mardi 19 décembre 2023, 20h pétante, c'est l'horaire de votre quotidienne sportive qui n'est autre que Time Sport chaque soir sur la plus belle des radios Beurre FM. Le 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard. Voilà, rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices. Au programme de cette émission, on va parler de quoi ? Eh oui, du meilleur joueur de la Liga de la saison dernière, Antoine Griezmann, l'international français, un joueur peut-être de football sous-côté ou sur-côté. C'est la question que l'on s'est posée avec les auditeurs et les auditrices, mais aussi toute l'équipe de Time Sport. Aubameyang, le joueur peut-être qui relève l'Olympique de Marseille. Eh oui, il est en pleine forme en ce moment, Aubameyang. C'est à l'approche des fêtes de fin d'année. On l'espère encore pour la seconde partie de cette saison. Et on parlera aussi du Paris Saint-Germain. Il se passe encore pas mal de choses, malheureusement, du côté du Paris Saint-Germain. Mais aussi, on parlera de son international, la pépite du football français, voire mondial, un certain Kylian Mbappé. Le 01 53 48 3000 pour réagir. Et on vous rappelle le débat du jour, chers auditeurs et auditrices. Y a-t-il un problème Mbappé au Paris Saint-Germain, selon vous? Luis Enrique, on a parlé justement aujourd'hui avec notre journaliste consultant Achille. Allez, qu'on essaiera à avoir au bout du fil Achille, parce qu'il était à la conférence de presse du Paris Saint-Germain cet après-midi. On reviendra avec toute l'équipe de Time Sport. Allez, sans plus tarder, on va présenter l'équipe qui m'accompagne ce soir.
Time Sport. Time Sport. Et pour parler.
Et ce soir, on sera en compagnie de Juba. Comment ça va, Juba ?
Bonsoir, Bilal. Bonsoir, toute l'équipe. Je suis très content d'être avec vous et avec les auditeurs et auditrices qui nous accompagneront durant toute cette heure où on va décrypter, évidemment, le meilleur du football. Et oui, et il y aura de l'extra-sportif aussi, malheureusement.
Ouais,
et
tu vas rester tout au cool sur l'extra-sportif.
Ouais, évidemment, évidemment.
On est avec Tariq aussi ce soir. Bonsoir, Tariq. Comment ça va ?
Bonsoir, tout le monde. Ça va très, très bien. Très bonne équipe autour de la table. Et je pense qu'il va y avoir des débats animé,
enflammé. Allez,
animé, enflammé. Eh bien, on l'espère, Tariq. Juste en face, on va retrouver Benji. Bonsoir, Benji.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Bilal. J'espère que tu vas bien.
Ça va, eh bien, tranquillement.
Très heureux. C'est
Lyon
ma première de la semaine.
A gagné.
Et Lyon et a voilà, gagné ce Benji. Week-end. Bon, braquage, ouais. Effectivement.
Ouais, Lyon a gagné.
Être honnête. On a gagné. On prend les trois points. On les prend. On a fait une bonne première mi-temps, mais la deuxième mi-temps était vraiment dominée de la tête et des épaules par nos amis monégas. Mais on a trois points. On va les prendre et on va pas s'en plaindre.
Très zone rouge aussi.
On sort de la zone rouge. On sort la tête de l'eau et on arrive à trois points. Rennes qui, on ose me dire que Rennes n'est pas en difficulté alors que Lyon fait son pire début de carrière de son histoire et on est qu'à 3 points de Rennes, qui a un effectif qui est bien meilleur que le nôtre encore une fois, mais c'est un autre débat.
Encore 2 victoires et vous montez sur le podium hein.
Mais on arrive, on joue le titre.
Non mais on rigole,
c'est
la peine hein. La Ligue 1, Benji,
Lyon restera en Ligue 1. Ouais, Lyon restera en Ligue 1. Les Rouges du Rawa face au Sky Blue de Manchester City. 1-0 à la pause pour les hommes de Pep Guardiola en demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs, on le rappelle. Hein. Allez, on va donner le petit bonsoir et aussi, c'est un plaisir de l'avoir avec nous. C'est Ryan. Ryan, bonsoir.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'embrasse tous les auditeurs, les auditrices, parce que je suis frustré un peu de la rapidité de cette année. C'est passé tellement vite. Ouais. Là, on arrive déjà à la fin de la première partie de saison.
C'est vrai.
On arrive
c'est
à la fin de 2023. Donc, j'embrasse toutes les personnes qui vont fêter toutes ces fêtes de fin d'année tout seul.
Ouais, et, on pense
et voilà, on passe à eux très, à très personnes. Fort. Et je vous embrasse à tous. Et je suis très content et très ravi d'être parmi vous.
Et Vanessa, qu'on pourra retrouver 21h, 23h, elle pense fortement à ces personnes.
Elle les aide.
Comme nous, hein, on aide tout le monde aussi. Hein. On va aider aussi ces personnes, hein, ses parents, exactement. Profs, j'allais dire. Mais non. Oui, les parents, les entraîneurs, parce qu'il se passe pas mal de choses aujourd'hui. Il y a des grèves d'entraîneurs hein, dans le football amateur. Le petit clin d'œil ce soir à la réalisation. Avec Solal, notre réalisateur. Bonsoir Solal.
Eh oui, bonasera à tous. Si vous nous rejoignez, c'est la quotidienne sportive de Beurre FM. Ah oui,
ça va Solal.
Incroyable. Eh oui, comment ça peut pas aller quand franchement j'ai Bilal en face de moi.
Et Antoine Griezmann aussi meilleur joueur.
Ben oui, là tu me fais sourire. Petite dédicace à Chekib qui nous écoute et vous êtes bien sur Beurre FM, les amis.
On l'aime bien, Chekib des Chek et Match. Voilà le 01 53 48 3000. Antoine Griezmann, élu meilleur joueur de la saison 2022-2023 par nos confrères de AS. En Espagne, justement. On t'écoute. Vas-y, Ryan.
C'est amplement mérité. Alors, c'est amplement mérité.
Amplement mérité.
Griezmann,
bien
sûr.
Très bon
qui
joueur,
fait partie des meilleurs attaquants de cette décennie, j'ai envie de dire, que ce soit pour l'équipe de France et que ce soit aussi avec l'Atlético de Madrid. Il réalise un début de saison parfait, j'ai envie de dire, avec tout ce qu'il a traversé. Le jeune Antoine Griezmann, il a traversé pas mal de choses, beaucoup de critiques. beaucoup, beaucoup de critiques et il a su essuyer ça en allant chercher cette récompense magnifique en fin d'année. Et je trouve que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse lui faire à ce joueur-là.
Ouais, ce joueur, sous-côté ou pas, Tariq, ça te fait sourire.
Je pense qu'il est sous-côté parce qu'on n'en parle sous-côté. Pas assez. Il a connu un début de saison la saison dernière avant la Coupe du Monde qui a été très compliqué avec ses histoires de contrat avec le Barça, prêté, qui pouvait pas trop jouer.
On s'en souvient.
Etc. Et après la Coupe du Monde, on a retrouvé un Antoine Griezmann vraiment flamboyant. Et moi, si j'ai un truc à dire sur ce joueur-là,
c'est quoi ?
C'est l'intelligence. C'est un joueur qui est tellement intelligent.
Je pense qu'il a l'intelligence, Tariq.
Il a perdu de son physique et de ses capacités qu'il avait il y a encore quelques temps. Mais il a su se réinventer. Ses coachs aussi ont su le replacer sur le terrain, mais il a su se réinventer. Et moi, j'ai rarement vu un joueur aussi intelligent tactiquement et aussi intelligent sur un terrain, en fait. Et je m'y attendais, franchement, je m'y attendais vraiment pas à ce qu'il fasse une saison aussi bonne. J'ai regardé ses statistiques. Il est troisième meilleur buteur de la Liga encore. Il est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais... Personne n'en parle. Personne ne le cite comme un top de ce début de saison-là.
Je pense qu'on en fait un peu trop, moi, de Griezmann. C'est-à-dire que hier on en parlait dans cette émission parce qu'il avait mis le but pour la Real Sociedad qui affrontera Paris quand il avait joué face à Lyon qui est en la Ligue des Champions 2013-2014. On en a parlé un peu, mais par rapport à ce Griezmann de 2013-2014, je vois pas d'évolution dans Griezmann.
Voilà, tiens,
je peux développer ou pas ?
C'est
pas un joueur qui
a regardé du football en 2014 aussi, du coup. T'as arrêté de regarder du football en 2014.
Écoute, c'est-à-dire que Griezmann, certes, il est bon, mais je veux dire, on voit pas une ligne droite qui monte. C'est-à-dire que malheureusement, Griezmann, là où on l'attendait, il a pas forcément répondu, quoi. C'est-à-dire que notamment quand on l'attendait en 2016 en finale de Coupe d'Europe, quand on l'attendait à d'autres matchs, certes, il a cette Coupe du Monde en 2018, hein, mais bon, à part ça, je veux dire. Griezmann, c'est pas si flamboyant, c'est pas si magnifique que ça. L'année dernière, il y avait quand même des clubs qui ont fini. Il y avait des joueurs au Barça et qui ont bien mieux joué que Griezmann.
Il est fatigué, c'est son début.
On va écouter Mendy, on l'a pas entendu.
C'est normal, c'est pas grave.
Alors moi déjà, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Tariq parce que je suis amplement d'accord. Pour moi, actuellement, j'ai peut-être allé même
d'accord avec Tariq.
J'ai beaucoup de mal à trouver un joueur qui a un QI football plus élevé actuellement dans le football moderne que Antoine Griezmann. Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Vas-y, est-ce que tu peux me citer autant de joueurs que ce que tu dis qui ont cette capacité, ce QI football qui leur permet de jouer à autant de postes? Antoine Griezmann, c'est peut-être le seul joueur actuellement avec peut-être deux ou trois qui peuvent me venir en tête à pouvoir jouer quasiment à tous les postes sur le terrain et avoir un impact positif. Évidemment, tu ne peux pas le mettre gardien de but ou défenseur central. Je l'ai vu commencer ailier gauche. Je l'ai vu passer 9, passer 10. Je l'ai même vu jouer milieu gauche dans une défense à 3. Et maintenant, il est 8,5.
Il fait gagner quoi, Griezmann?
Il a fait gagner l'Europa League à l'Atlético de Madrid. Il a fait gagner la Coupe du Monde 2018. Il a fait gagner. Grâce à lui, l'équipe de France est allée en finale de Coupe du Monde 2022. Il y a beaucoup de choses à
gagner.
En tout cas, pour ma part, je vais même aller encore plus loin. C'est-à-dire que Griezmann, faut pas oublier que c'est à la base un faux numéro 9, donc il a joué sur pas mal de postes, comme l'a très bien dit Benji. Mais pour moi, il a inventé un rôle carrément parce que des faux numéros 9 qui arrivent à descendre.
C'est
du jamais vu, c'est du jamais vu, les amis. Donc Jouba, tu peux nous dire ce que tu veux. On sait que t'es fatigué.
Jouba,
n'importe
quoi. Mais non,
Tariq,
attends.
Ton argument, en fait, c'est t'as cité l'Euro 2016. Peut-être l'équipe de France en général rate sa finale, ça on est d'accord. Mais ce qu'il fait à l'Euro 2016, c'est le patron de l'équipe de France. T'oublies juste avant aussi ce qu'il fait en étant tout nouveau avec la génération Pogba, etc. en 2014. Ce qu'ils arrivent à faire après par la suite. En 2018, moi je veux bien qu'on cite Kylian Mbappé ou d'autres, mais c'est le patron de l'équipe de France en 2018. Et je sais pas s'il y a plus gros titre que la Coupe du Monde.
Et c'est la tête d'affiche de toutes les équipes dans lesquelles il joue.
Depuis 2018, qu'est-ce qu'il a fait?
C'est la tête d'affiche de l'Atlético de Madrid, c'est la tête d'affiche de l'équipe de France
avec Kylian Mbappé.
parti se perdre au Barça, il s'est perdu complètement au Barça.
Oui, mais ensuite, c'est compliqué, t'es dans un Barça qui
il est revenu à l'Atlético. Excusez-moi, mais les gars, l'intérêt du football, c'est quand même de gagner. Et excusez-moi, depuis 2018, Griezmann, ça gagne pas.
J'ai envie de te dire, Jouba, le mec, ok, bon, tu dis qu'il a galéré avec le FC Barcelone. Je te rappelle quand même qu'il est arrivé dans un club où le patron, c'était Lionel Messi, que tous les joueurs jouaient autour de Lionel Messi, et mine de rien, lors de sa deuxième saison, il réalise quand même une saison, mine de rien, qui est plutôt satisfaisante, avec 13 buts et 7 passes décisives en 36 matchs. Alors que c'est pas son rôle à lui, ce n'est pas de marquer. Je le rappelle, c'est un 8,5. Ouais. Il y a un attaquant devant lui, donc franchement.
Qui pouvait jouer tous les postes.
Oui, il y a très peu de joueurs actuellement dans le monde du football qui ont cette capacité à pouvoir rendre des services à peut-être 9 postes sur 11 sur le terrain de football. Et ça, on se rend pas compte à quel point ça te permet de juger la qualité d'un joueur quand on parle de surcoté ou surcoté. Je suis pas dans le truc à me dire qu'il est sous-coté. Je suis pas d'accord avec ça parce que je pense qu'il est totalement sa place. Je trouve qu'on le juge à sa juste valeur. Et pour le coup, là où j'ai une petite différence avec Tariq, je trouve qu'on l'a quand même bien mis en avant son très bon début de saison avec l'Atlético de Madrid. Je trouve qu'on le met très bien en avant dans les médias quand il est bon.
Je
pense qu'il est vraiment à sa table,
à sa place,
parmi les plus grands attaquants et milieux de terrain offensifs de sa génération. Il n'est pas un, il n'est pas deux, il n'est pas trois, mais il arrive très vite derrière.
Justement,
beaucoup de monde est unanime pour dire ça. Et cette capacité à inventer un rôle, à savoir se redéfinir et à rendre des services et à jouer, à mettre le collectif avant le côté individuel, pour moi, ça en fait un joueur qui a un QI football qui est peut-être le plus élevé actuellement dans la
Première Ligue. Moi, quand je te disais ce côté, c'est pas par rapport à la saison, c'est par rapport à sa carrière en général, parce que pour moi ça fait partie des top joueurs de l'équipe de France.
Il a un impact
dans le top 5, top 6 largement de l'équipe de France. Quand tu vois ce qu'il a fait, comment il a porté l'équipe de France, surtout que ça sur le terrain.
Moi,
à partir des 8e de finale de la Coupe du Monde 2018, c'est taille patrou, il est toujours bon. Euro 2016, c'est la même chose. C'est Antoine Griezmann, en fait, il a toujours des phases de groupe qui sont assez difficiles, et à partir des matchs à élimination directe, il est tout le temps bon. C'est un patron. La dernière Coupe du Monde aussi, la dernière Coupe du Monde, certes, il a pas staté, mais c'est lui qui te porte, qui te
porte. C'est un joueur qui a des hauts et des bas aussi, c'est normal. Je suis d'accord qu'il y a une période de mou.
Après, le côté du Barça, avec la décision, etc., il est fautif. Je ne trouve pas d'excuse. Il est fautif, il aurait jamais dû partir là-bas.
Jouba, il est d'accord aussi avec ça.
Pour ça, il n'y a pas de souci.
Solal, avant de terminer ce premier dossier,
bien sûr, j'aimerais dire deux mots. Déjà, je pense que Griezmann, il est au-dessus du débat sur côté, sous côté. Pour moi, c'est déjà mon avis. Je ne vois pas pourquoi encore on s'attarde sur les réseaux sociaux.
Beaucoup de monde s'attarde encore.
Sur ou sous côté, pour moi, il est complètement au-delà de ça. Et je finis deux secondes. Et je pense qu'on se rendra compte de sa vraie valeur lorsqu'il sera vraiment parti. Je pense aux jeunes 2023-2024 qui viennent de naître. On leur parlera dans, je sais pas, 10-15 ans, en disant, mais voilà, ce joueur-là, quand il jouait sur le terrain, on avait les yeux rivés sur lui. Pas parce qu'il avait une coupe de cheveux incroyable, même si ça nous permettait de le repérer sur le terrain, parce qu'il a eu des projets capillaires. Bon, on va pas
s'étendre
dessus. Audacieux, exactement. Mais c'est un joueur qu'on regardait sur le terrain à sa juste valeur. Et puis en plus de ça, c'est un joueur qui a vécu donc pas mal de choses qui ont remis sa carrière en cause. On parle forcément là du plus récent, de la Coupe du Monde là qui s'est passée au Qatar, les amis. Mais quand il a quitté l'Atlético de Madrid, il est arrivé, il s'est fait huer par le Barça, et juste après, l'Atlético a gagné un titre. Et quand il est revenu à l'Atlético, il s'est fait huer par l'Atlético.
C'est vrai.
Mais pendant longtemps.
Il a rien gagné.
Il y a eu cette question de numéro 8. Les gens ont porté des tifos en disant voilà, tu seras plus jamais accepté en tant que numéro 7. Bah écoutez, aujourd'hui, numéro, pas numéro, surcoté, sous-coté, capitaine, pas capitaine, Griezmann, c'est un joueur en or.
Mais je rejoins juste Solal, juste pour rejoindre Solal. Excuse-moi, t'as réussi à couper la parole. Pour moi, il y a un Griezmann avec, il y a une équipe de France, avec et sans Griezmann. On va pas se mentir. Voilà.
Bien sûr.
Tariq, on termine avec toi avant la
première
pause.
Moi, j'ai juste une question à Jouba. En fait,
tu donnes
le titre de meilleur joueur à qui, en fait, en Liga? Qui t'a marqué en Liga?
Vas-y, Jouba.
Tu peux effectivement le donner à un joueur du Barça, parce qu'ils ont gagné le titre.
Non, mais qui?
Parce que moi, je sais pas, moi, Lewandowski, peut-être par exemple. Ou d'autres qui ont plus marqué le truc. Moi, en tout cas, moi, je dis pas que Griezmann est mauvais. Humainement, humainement, ça a l'air d'être une crème, etc. On le critique pas humainement. Et je pense que c'est là qu'il marque des points. C'est qu'il fédère autour de, d'un collectif et notamment autour de l'équipe de France, même si Kylian Mbappé lui a pris le rôle de capitaine. Au-delà du terrain, et je pense que c'est un mec en or, exactement. Mais sur le terrain, excusez-moi, c'est pas transcendant. Il fait gagner aucune de ses équipes. Et malheureusement,
il fait des efforts qu'aucun joueur de son calibre n'oserait faire, en fait, n'oserait même penser. Et c'est cette capacité-là.
Ouais, l'intelligence de jeu.
Ouais, bah, l'intelligence de jeu. Mais alors, vas-y, tu m'as dit, j'ai plein de joueurs qui ont une meilleure intelligence de jeu actuellement qu'Antoine Griezmann, actuellement en Europe, voire dans le monde, et qui ont une capacité plus large à jouer plusieurs postes. Alors, moi, effectivement, j'en ai peut-être un ou deux que je pourrais accoler à Antoine Griezmann, le mettre devant, je suis pas sûr.
Ok.
Ouais, y a personne.
Si tu me permets, très rapidement,
c'est Griezmann, c'est un des joueurs dans l'attaque qui a révolutionné aussi les efforts défensifs. On n'en parle pas assez. Bien sûr, il y a Diego Simeone derrière tout ça, et derrière le rideau, il y a beaucoup de choses en coulisses qui se passent à l'Atlético. Mais mine de rien, Griezmann, je pense qu'il donne un certain goût. Donc,
Il aime ça, mais surtout il donne aux
autres envie d'aller bien faire sûr, les efforts aussi. Quand ça fait trois fois dans le début de match et tous les débuts de match, Griezmann il met une énorme intensité. Je sais pas si vous regardez les matchs, je pense pas, j'en doute franchement, parce qu'il met une telle intensité derrière toutes ses courses que finalement il entraîne des gens avec lui. Donc, au final, le résultat, c'est quoi, le résultat,
Jouba, une Coupe du Monde, une Europa League, voilà,
il est dans un championnat
où t'as le Real Madrid, où t'as Barcelone.
Regarde,
son Real n'est pas l'équipe la plus forte sur le papier.
On aura trop d'accord, rien qui est pas d'accord, c'est Jouba, ça te fait rien. On va retrouver Jouba et toute l'équipe de Timesport de suite après la première pause et on repartira du côté de Marseille.
Timesport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h17, toujours en compagnie d'Orayan, de Benji, sans oublier Jouba et Tariq pour m'accompagner jusqu'à 21h. On rappelle 21h, 23h, c'est Vanessa qui arrivera. Rien que pour vous, chers auditeurs et auditrices, le 01 53 48 3000, place à l'Olympique de Marseille.
Time Sport. La parole des sociaux.
Et là, l'écoute, Solal, à la réalisation, justement, on a désigné peut-être le roi Aubameyang, c'est la presse, c'est les observateurs du football, Benji avec aussi Ryan, concernant Aubameyang, et oui, l'international gabonais.
Exactement.
On n'oublie pas la Coupe d'Afrique qui arrive.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. D'abord, je veux juste avoir une petite précision au sujet du CM de la Ligue 1, du coup, sur les réseaux sociaux, qui s'entête de mettre que Pierre-Emerick Aubameyang est à 5 passes décisives. Et moi, je souhaite aussi rectifier le coup.
Alors,
il en a 7 passes décisives, exactement. Ouais. Voilà, il y a 7 passes décisives,
cette saison,
en Ligue 1 avec 5 buts. Il réalise un début de saison plutôt satisfaisant. J'irai pas dire que voilà, c'est extraordinaire, c'est super, c'est génial. Il fait ses matchs. Après, moi, j'accuse aussi l'effectif dans sa globalité parce que je pars du principe où l'Olympique de Marseille arrive à gagner uniquement face aux clubs qui sont en dessous de la 10e place.
Ah ouais.
Quand ils tombent contre un club cette saison, mais regardez les statistiques.
Ouais, bien sûr.
Quand ils tombent contre un club qui sont au-dessus de la 10e place, c'est soit un match nul, soit une défaite. Et là, en revanche, on gagne contre Clermont, on a gagné contre Lorient.
Ouais.
C'est la même chose pour Rennes. Et si vous regardez bien dans le classement, c'est très, très, très bas. Et je pars du principe où là, cette semaine en plus, ils arrivent à Montpellier et c'est la dernière semaine pour eux. Dernière ligne droite, j'ai envie de dire, j'espère que effectivement pour la trêve internationale, ça va bien se passer. Et en tout cas, pour le cas de Pierre-Emerick Aubameyang, je pense que sa deuxième partie de saison risque d'être plus alléchante que cette première partie de saison.
On l'espère aussi. Benji, Tariq et Jouba.
Je suis en partie d'accord avec ce que vient de dire Ryan.
Ouais.
Moi, j'ai aussi envie de mettre en avant l'ensemble de l'effectif marseillais qui a quand même, je trouve, sur les dernières rencontres, montrer du beaucoup mieux. Alors c'est sûr et certain que Pierre-Emerick Aubameyang est le leader offensif de cette équipe, donc c'est la personne que tu as envie de mettre en avant en premier, parce que depuis qu'il y a eu cette association avec Vitinha, depuis qu'il a beaucoup plus de liberté offensive, il te permet à la fois et de créer du jeu et de terminer les actions et d'être vraiment limite un rôle que moi je l'ai très peu vu faire, que ce soit à Saint-Etienne, à Chelsea, à Barcelone ou même Dortmund. Encore à Arsenal, oui, ou à Dortmund effectivement aussi. C'est ce rôle de lien milieu-attaque et cette capacité à pouvoir être même l'avant-dernière passe, la, le passeur décisif, voire même d'être l'instigateur d'une action qu'il va terminer. Et je trouve ça mais super intéressant du côté de Aubameyang, qu'on avait plus l'habitude de voir comme un joueur de profondeur qui allait terminer des actions, ou alors quelqu'un qui allait prendre de la profondeur sur un côté pour aller centrer, et généralement c'était un peu compliqué parce que c'était pas sa qualité première. Mais là je trouve que cette façon d'avoir un peu ce côté très électron libre devant lui réussit très bien à l'Olympique de Marseille, et permet du coup de faciliter le jeu de beaucoup d'autres joueurs. Je pense à des Veretout ou Unai, Harit, qui sont bien meilleurs aussi depuis un bon moment, parce qu'ils ont cette capacité à pouvoir se reposer sur un joueur qui techniquement est bien meilleur et beaucoup plus juste, et n'est aussi comme ça en Ligue 1 et plus seulement en Ligue Europa, dont il est le troisième meilleur buteur historique de l'histoire de la Ligue Europa. Petite stat intéressante, ouais. C'est le troisième meilleur buteur historique de la Ligue Europa.
Exactement.
Après tout corréler l'ensemble de l'évolution de Marseille au Pierre et Aubameyang, je pense que c'est faux, c'est une erreur factuelle. Je pense que au contraire, c'est parce que on sait qu'il y a eu une tourmente, notamment autour du départ de l'entraîneur espagnol de Marcelino, évidemment, au début de saison. Donc il fallait qu'il reprenne des marques avec l'entraîneur italien. Donc ça a commencé comme ça. Donc je pense que il faut pas mettre l'ensemble de l'œuvre marseillaise parce que Aubameyang a pu apporter quelque chose. Je pense que justement c'est tout le collectif qui s'est réveillé, qui a appris justement à bosser avec Gattuso, etc. Et donc c'est Pierre-Emerick Aubameyang est à l'image de ce collectif là qui s'est réveillé, qui a pris ses marques dans cette Ligue 1. Après c'est un très bon joueur qui a connu évidemment des grosses compétitions. Tu parlais d'Europa League, voilà, il a connu des gros clubs, des gros championnats, Premier League, Dortmund, il y est passé aussi. Donc voilà, il connaît les gros enjeux, il sait ce que c'est que le haut niveau. Et tant mieux en fait pour l'OM.
Après ça a été fait par la force des choses, parce que je pense que le réajustement tactique qu'a fait Gattuso depuis quelques matchs, ça a été fait vraiment par la force des choses, avec les blessures qu'il y a eu. Il était obligé de passer à une défense à 3, à mettre un attaquant avec lui. Donc ça lui a laissé un peu plus d'espace. Moi, ce que je trouvais bizarre, c'était qu'il...
Ouais, c'est quoi ?
Au début de saison, il était très bon, surtout en Coupe d'Europe.
C'est ça.
Les tours préliminaires, Ligue Europa, c'était un attaquant qui plantait.
Enfin, moi, ils sont quand même éliminés en tour préliminaire.
Oui, mais il a marqué. Oui. Il a marqué. Oui. Lui, à titre personnel, il a marqué. Et moi, ce que je me disais.
C'était peut-être un peu plus ouverte. Ouais,
voilà, c'était un peu plus ouverte. En Ligue 1, t'as quand même des équipes qui jouent assez bas, surtout quand tu rencontres des équipes comme Marseille ou d'autres grosses équipes du championnat. Donc, je pense qu'il a un petit peu galéré à prendre ses marques par rapport à ça. Et oui, là où je te rejoins, Jouba, c'est qu'il est aussi dépendant du collectif. Mmh. Et là, il y a vraiment on va pas dire un léger mieux, mais il y a du mieux avec le réajustement tactique de Gattuso.
Si je peux me permettre,
même
Rudy
et Claude, je vais faire une image de ça, parce qu'on sait que Gattuso se porte énormément sur ses latéraux, et son jeu se base énormément sur ses latéraux, et Lodi et Claude sont excellents.
Et moi, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie. Donc en France, en général, qui adule la composition de Gattuso. Mais je vous rappelle qu'il y avait un entraîneur qui jouait aussi avec une défense à 3 et des latéraux un peu plus haut, qui est bien sûr Tudor, qui a été énormément critiqué de par cette composition. Ouais. Aujourd'hui, les supporters marseillais voient que ça marche, voient que grâce à cette composition, on va dire entre guillemets, le club gagne. Mais c'est vrai qu'avant, Tudor se faisait énormément lyncher parce qu'il utilisait cette composition.
Non, il se faisait lyncher parce que les résultats ne suivaient pas. Mais quand ça suivait,
au début de saison, c'était très compliqué.
Il y a eu des retournements de veste quand il y a eu des bons résultats. Et c'est comme partout.
Oui, mais
dès que ça ne fonctionne plus, on t'allume.
Tariq, moi j'ai entendu, que ce soit des tweets ou même autour de moi, j'ai entendu dire que même malgré que Marseille gagne, il faudrait que ce compte de Tudor arrête avec cette composition, arrête avec cette défense à 3 et qu'il passe par exemple en 4-3-3 ou en 4-4-2. Ça, je l'ai toujours entendu, même si l'OM gagnait ou pas, c'était toujours la même chose.
Tudor après, a pris très cher pour pas grand chose.
Ouais, c'est ça. Après, pour revenir
la différence, c'est qu'il y a des gros latéraux, comme disait Benji, alors que Tudor n'avait peut-être pas ces gros latéraux. Mais c'est pas le même niveau.
Après, pour revenir du coup sur le cas Pierre-Emerick Aubameyang.
Allez, vas-y.
avant de passer au Paris Saint-Germain.
Franchement, j'ai pas envie de dire que c'est grâce à lui entre guillemets que l'OM est en ébullition, mais en tout cas en ce moment c'est l'homme fort. Voilà,
c'est le principal moteur d'une Formule 1 qui tourne bien.
Voilà, c'est ça. Ouais, exactement.
Il y a plein de moteurs,
ça,
mais c'est celui qui tourne.
L'image qu'il a trouvée, elle est pas mal. Ouais.
C'est ça, elle est pas mal. Ouais. Bah, j'ai plus rien à dire.
C'est alors. Ça, c'est rien à dire.
Merci Benji.
Non, ouais.
Merci Benji.
Ouais. Si vous voulez réagir, le 01 53 48 3000 avec Tariq, avec Jouba, sans oublier Benji et Ryan. Oui, Ryan, il n'a pas tort, justement. Ça, c'est Yacine qui nous dit, qui nous écoute. Et on a aussi Nasser. Il est remarquable, Tariq. Voilà, ça, c'est pour les petits messages sur les réseaux sociaux. On va s'attarder sur le Paris Saint-Germain, une large page concernant le club de la capitale.
Time Sport, le mode pressing.
Là, en voiture, voilà, hein. Prépare-toi, Benji, hein. Selon nos confrères, justement, le D-Sport, Luis Enrique et Kylian Mbappé ne seraient pas sur la même longueur d'onde en ce moment sur le plan tactique. Il suffit de prendre la réaction de Kylian Mbappé au sujet des consignes données par Enrique à la fin du match face à Dortmund en Champions League. On l'écoute, Benji.
Ouais, on peut l'entendre parce que t'as un Kylian Mbappé qui est extrêmement compétiteur. On est là pour voir des matchs de football et quand t'es pas sûr de ce que ton avenir est fait en Ligue des Champions, que tu te joues le match nul alors que tu domines et que tu peux mener 3-0 à la mi-temps, je peux comprendre la frustration de Kylian Mbappé sur ce sujet. Après, là où c'est extrêmement contradictoire, et c'est là où moi j'ai un vrai point d'interrogation du côté du Kylian Mbappé, du côté du Paris Saint-Germain, c'est Luis Enrique qui nous explique en conférence de presse qu'il donne une liberté totale à Kylian Mbappé sur le flanc d'attaque. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut, il y a aucun souci. Ouais. Et en fait, je peux entendre que tu donnes ce genre de choses quand tu parles de Kylian Mbappé, qui est peut-être l'un des meilleurs attaquants du monde sur la plupart des postes. C'est une certitude, je peux l'entendre parce qu'il a ce côté un peu génie qui va te permettre de se faire la différence à n'importe quel moment. Cependant, quand on parle du système de jeu, de la tactique Luis Enrique, c'est quelque chose de très bien huilé. C'est quelque chose qui est précis, c'est quelque chose d'efficace avec une possession de balle où tu sais où tes joueurs vont se trouver, où tu peux trouver tes joueurs un peu à l'aveugle, tu sais où ils vont se placer. Donner ce genre de consigne à un de tes attaquants, c'est totalement à l'opposé de la façon de jouer de Luis Enrique. Et c'est là où moi j'ai un gros point d'interrogation. Je sais pas si ça vient du côté de Kylian Mbappé, et c'est Kylian Mbappé qui demande cette liberté totale, ce qui est possible. Mais j'ai l'impression aussi que Luis Enrique l'assume totalement et dit d'accord, Kylian, moi j'ai un joueur tellement fort que je lui laisse cette liberté totale et tu te débrouilles avec ça.
Sur le coup, je pense qu'il fait souvent de langue de bois et qu'il nous balade un petit peu, que ce soit les supporters ou les médias. Mais je pense que là, sur le coup, il lui donne vraiment une liberté totale. Ouais. Et le problème de Kylian Mbappé, moi, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Moi, j'étais pour un départ. Je pense que c'est une bonne chose que Neymar soit parti, que Messi soit parti, même que Verratti soit parti. Mais je pense que Kylian Mbappé, le gros souci, c'est que au bout d'un moment, il y a une certaine frustration parce que ces mecs-là, c'était des pourvoyeurs de ballons, mais c'était du top, top niveau. Évidemment. T'avais un Neymar et un Mbappé qui se trouvaient les yeux fermés. T'avais un Messi, même en marchant, qui pouvait te trouver des angles de passe impossibles à trouver. Et je pense qu'au bout d'un moment, t'as cette frustration-là de se dire que peut-être j'ai demandé, je sais pas si c'est lui qui fait le recrutement, mais peut-être qu'il a été satisfait du recrutement qui a été fait, mais que là, sur le terrain, il y a un manque criant technique. Je pense qu'il en manque de ces pourvoyeurs de ballons-là. Moi, je trouve que le profil des milieux de terrain qui est actuellement
mais
Paris Saint-Germain.
C'est pas lui qui les a choisis.
Non, j'ai dit qu'il était satisfait. Non, je pense qu'il était satisfait de se débarrasser des comportements que pouvaient avoir les Messi, les Neymar, etc. Mais en tout cas, je pense que les profils de joueurs qu'il a actuellement, c'est pas des très bons pourvoyeurs de ballon. Et je pense que c'est des profils qui sont assez scolaires, en fait.
Rappelons.
Et c'est pour ça que je pense qu'il a une certaine frustration.
Après, j'ai envie de vous poser une question, les amis. Est-ce qu'on a déjà entendu Kylian Mbappé s'entendre avec un de ses entraîneurs?
Non, mais
j'ai l'impression
c'est une fake news, les gars.
Tous les entraîneurs qu'il a eu, en tout cas au Paris Saint-Germain, il a toujours eu un petit problème. Que ce soit avec Pochettino, que ce soit avec Unai Emery, que ce soit avec Tuchel, là avec en l'occurrence Luis Enrique.
Pochettino, il s'entendait très bien avec lui.
Mais il y a toujours des frictions. Mais tu vois, comme entre une star et son coach.
Et puis en fait, pour revenir du coup, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui est à la fois très facile à placer, mais à la fois très difficile à placer. Parce que Kylian Mbappé, il faut le suivre. Ouais. C'est un joueur qui va très vite.
Bien, hein.
Donc il faut un milieu de terrain, comme l'a dit Tariq, créateur, créatif, qui puisse sortir une passe lunaire, qui puisse essayer de se défaire d'un pressing et qui puisse envoyer devant vers Kylian Mbappé.
Pas que le milieu de terrain, parce que moi je suis désolé. De l'autre côté, t'as un Dembélé qui s'entend incroyablement bien avec Hakimi. C'est une relation technique, qui se trouve les yeux fermés. Franchement, c'est du top top niveau.
Hakimi moins barre la semaine dernière.
Les gars, vous me pardonnerez de ne pas croire un seul mot de ce que raconte le Disport. En fait, on est en train de débattre de ce que raconte le Disport.
S'il te plaît, j'ai le droit en tant que présentateur de lancer pléiade de chapeaux.
J'ai le droit de contester la source.
Des fois ça peut être nos confrères du Parisien, des fois c'est le Disport, des fois ça va être nos confrères d'Inter. On est bien d'accord. Maintenant vas-y. Mais on a beaucoup parlé de cela aujourd'hui.
Oui.
On va voir Achille.
Moi je vais demander même Achille un peu. Je connais quand même suffisamment le PSG pour savoir qu'il y a quand même beaucoup de blabla et le Disport n'est pas une source fiable. Je suis désolé. Ensuite, rappelons quand même les gars que l'arrivée de Luis Enrique s'est faite bien après le processus de copinage qu'il y a eu entre Luis Campos et puis Jorge Mendes, qui a fait parachuter des joueurs dont on ignorait l'existence en fait, notamment Ugarte, qu'on croyait être un bon choix, mais au final on a vite vu que ça s'est vite joué. Milieu de terrain a été complètement recruté sans l'aval de Luis Enrique et j'en sais un bout.
Ugarte était sur les palettes de Chelsea et du Paris Saint-Germain depuis très longtemps.
Non, mais bien
c'est
sûr. Mais
en tout cas, il y a eu un
forceps de la part de Jorge Mendes qui a parachuté 5-6 de ses joueurs. Et puis Luis Enrique est arrivé bien après le début du commencement du mercato. Donc on peut pas se dire que ce milieu de terrain, c'est lui qui l'a voulu. Il le voulait pas.
En tout cas, il a dit qu'il était satisfait du recrutement et qu'il travaillait en symbiose avec Luis Campos. Après, c'est pour ça que c'est compliqué des fois le discours qu'il peut avoir et le fait que t'as l'impression qu'il est pas content finalement après 4 mois de compétition. Ouais. Et c'est vrai que il y a des petites incohérences. En tout cas, moi là où je suis d'accord, c'est que les recrues c'est pas le profil des joueurs qu'a eu Luis Enrique durant sa carrière.
Alors Solal, réaction.
Pour revenir sur le problème Mbappé, déjà pour ceux qui auraient pu voir les matchs de Ligue des Champions, il était très énervé à la fin du match. On a vu que c'était pas qu'avec Luis Enrique, on s'attarde beaucoup sur le coach, mais Marquinhos en général, on les voit pas trop se frictionner les deux. Et là, à la fin du match, clairement, Mbappé a pris donc Marquinhos un peu à part et lui a fait un peu la morale comme si il avait 10 ans de plus que lui, alors que clairement dans les deux, c'est Marquinhos qui est le plus âgé. On a vu aussi qu'au niveau des supporters, il y avait un truc qui passait pas, comme s'il avait une larme à l'œil. Et pour revenir donc sur Luis Enrique, le sujet là qui nous concerne tous. Donc Luis Enrique s'est permis donc de répondre un peu avec humour, comme si c'était un couple, mais en fait ça rappelle finalement l'histoire d'un couple, un couple qui est parfait, où il y a pas d'engueulade, d'embrouille. Désolé, ce n'est pas normal, ça n'existe pas, ou bien vous m'appelez et dans ce cas-là, il faudra me tenir au courant. Il a tout simplement répondu comme toujours, une relation parfaite, on n'est pas en couple mais presque, surtout parce que c'est lui qui ne veut pas, avec humour comme je vous ai dit. On a toujours été très proches avec Kylian, il fait des blagues, rigole toujours, moi aussi j'aime bien rigoler, on a une très bonne relation avec le reste des joueurs. Mais tout ça pour dire que Mbappé est dans son droit totalement, parce que il faut savoir que lui est motivé par des choses qui dépassent la Ligue des Champions et le championnat. Lorsqu'il montre son énervement, tout simplement c'est qu'il aimerait avoir une équipe qui montre la même détermination que lui, voire plus, pour qu'il puisse encore plus briller, tout simplement, parce que on a parlé du Ballon d'Or il y a 3 semaines de ça déjà, parce que c'était tout simplement le sujet, la cérémonie. Kylian Mbappé, il est un peu entre la gorge et je pense que là il est en train très sérieusement de se remettre en question, ça passe aussi par des embrouilles avec les gens avec qui il travaille.
Moi je suis désolé, moi je veux bien qu'il s'énerve à la fin du match, mais toi t'as vu contre Dortmund, t'as vu un joueur hyper déterminé?
Non.
Est-ce que t'as vu ça? Il peut crier autant qu'il veut, il peut bouder autant qu'il veut, mais moi justement j'ai pas l'impression d'avoir un joueur aussi déterminé que ça. Moi je vois quelqu'un qui baisse les bras, qui a un mauvais comportement sur le terrain, qui est chafouin.
Alors moi, je suis le premier à dire qu'il a peut-être une frustration en termes de vraiment de sportif et de tactique. Mais au bout d'un moment, tu dois avoir un comportement de leader. Et c'est pas en reprochant aux autres ceci ou cela que tu seras un leader. C'est pas ce qu'on attend de toi.
Je finirais sur ça, Tariq. En vrai, même quand tu regardais des Cristiano à l'époque où il brillait, c'était leur prime. Des Lionel Messi, ça peut leur arriver à certains matchs. On peut pas lui demander la lune.
Oui,
mais
il a assumé sur le terrain.
Oui, ouais. il a quand même un âge qui va avec son style de jeu. Et mine de rien, il a le droit d'avoir de temps en temps. C'est pour ça, en début de saison, on pensait qu'Mbappé allait arrêter sa saison parce que tout simplement, ça faisait 2-3 matchs où il y avait une certaine flemme qui s'installait, une cosse qu'on n'arrivait pas à décrire. Mais finalement, Mbappé,
ça s'est poursuivi. On va revenir sur le cas du Paris Saint-Germain avec Jouba. C'est promis, Jouba. Et aussi Ryan et toute l'équipe de Time Sport. À de suite pour.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Plus sérieusement, 20h et 37 minutes, on le rappelle, pour les auditrices et les auditeurs de Beurre FM, on partira en Time Foot spécial Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, ça c'est sûr, ça, c'est à partir du mois de janvier. Rien que pour vous, les auditeurs de Beurre FM, on est en compagnie de Benji, de Ryan, de Tariq, sans oublier Jouba, le 01-53-48-3000. On parlait du Paris Saint-Germain, on va rester sur le Paris Saint-Germain, on t'écoute Ryan.
Pour revenir en fait sur le cas Kylian Mbappé, j'ai envie de vous dire que là il a été pressenti pour être le capitaine de l'équipe de France. Moi avec
il est déjà
capitaine. Oui oui. Mais pour l'Euro aussi, pour l'Euro 2024.
Ah oui, il sera capitaine, jusqu'à ce qu'il joue
avec les deux droits. Si ça se discute encore pour l'Euro 2024, ça peut changer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Mais moi j'ai envie de vous dire, avec le comportement qu'il a, pour moi, ce n'est pas un comportement de capitaine.
Mais il a quoi comme comportement ?
Comportement, ce comportement-là où c'est quelqu'un qui va bouder, qui va râler, qui va mettre des stories sur Insta en tant que pivot gang pour essayer de titiller leur entraîneur, qui va faire des petites la dernière fois qu'il a fait une interview, qu'il a accusé le coup d'Olivier Giroud, qui lui fait pas assez de bonnes passes décisives. Enfin, je veux dire, pour moi,
ça fait longtemps ça.
Même j'ai envie de vous dire, pour moi, il est encore immature. Alors, Mbappé, c'est pour moi. Encore une fois, c'est le meilleur joueur actuel, mais il est encore immature. Donc, attendons-nous à ce que dans les matchs à venir, il se passe encore des choses.
J'allais dire un truc sur Luis Enrique, parce que on tombe quand même pas mal sur le PSG, niveau moyen, patati patata. Luis Enrique a l'habitude des gros clubs, des grosses échéances, notamment en Ligue des Champions, et on sait que le lot des gros clubs, c'est d'être prêt pour le mois de février. Donc, si c'est moyen jusqu'à février et que ça passe, j'ai envie dire si après février, là contrairement à toutes les autres années où il commençait en bombe et il finissait en chaussettes mouillées, ben là ils nous font l'inverse, et moi je suis preneur, parce que je sais que Luis Enrique justement a cette mentalité là de préparer ses joueurs, peut-être de multiplier les essais comme on l'a vu le week-end dernier, etc., pour qu'en février là il est l'équipe indéboulonnable et aller décrocher tous les titres qui attendent le Paris Saint-Germain.
Ouais, Benji, on t'écoute.
Ouais,
Kylian Mbappé.
Ouais, Kylian Mbappé, justement, sur ce sujet-là, moi j'ai une info.
Alors, c'est laquelle ?
Alors, personnellement, j'y crois pas du tout. Ouais. Et j'espère que ça sera pas comme ça, parce que c'est compliqué pour un peu tous les camps. Mais donc une connaissance qui connaît très très bien quelqu'un de bien placé au Paris Saint-Germain qui. Ça parlerait d'une prolongation de 4 ans de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Donc c'est pas assez, j'invente pas quelque chose. C'est quelque chose qui se dit, avance, mais personnellement, même en connaissant l'informateur, je n'y crois pas. Je vois pas dans quel monde ça pourrait se faire. Aussi bien du côté de Kylian Mbappé, qui aura envie d'aller voir un peu ailleurs aussi pour gagner des titres, pour continuer de marquer l'histoire du football et pas que celui de la Ligue 1, du Paris Saint-Germain et de la France, qui veut aller chercher beaucoup plus loin. Donc dans ce prisme-là, dans le prisme Ballon d'Or, dans le prisme récompense individuelle et tutti quanti, je vois pas Kylian Mbappé re-signer pour 4 ans. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est 4 ans
c'est
pour
beaucoup.
Kylian Mbappé, qui vient encore déjà de passer un nombre d'années incalculable au Paris Saint-Germain, mais c'est ce qui se discute, il y a quelque chose qui a été formulé, il y a quelque chose qui est étudié sur 4 ans et qui apparemment
4 ans après, c'est
intéressé des deux côtés.
Après moi pour aller dans le sens de ton info, après moi j'ai aucune info, j'ai rien du tout. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que justement je verrais pas le Paris Saint-Germain prolonger Kylian Mbappé juste pour un an ou deux. S'il y a une prolongation, je pense que pour que les deux parties soient gagnants, faut vraiment qu'il y ait une prolongation un peu plus longue, qui nous refasse pas le cinéma qu'ils ont fait la saison dernière. Et là où je me dis que pourquoi pas il y aurait une prolongation, c'est que moi, je suis désolé, mais je vois pas un club comme le Real Madrid lui donner 70 millions d'euros de salaire. Pour moi, c'est impossible, c'est impensable. Et aussi, à côté de ça, je vois pas Kylian Mbappé partir du Paris Saint-Germain pour toucher moins. Ça, pour moi aussi. Moi,
ouais,
c'est du jamais
ouais,
vu.
Ouais. Tu vois, comme on a eu l'occasion de le dire rapidement en antenne, moi, je peux voir le Real Madrid donner un salaire qui va dans ce sens-là, si jamais il arrive libre de tout contrat et qu'ils n'ont pas à payer un salaire, une somme astronomique. Ce qui est le cas pour le moment. C'est-à-dire que s'il arrive cet été, voir le Real Madrid donner ce salaire-là à Kylian Mbappé, ça ne m'étonne pas. Cependant,
le Real en général, ils sont très, enfin, c'est très, très rare qu'ils attendent quelqu'un aussi longtemps que ça. Pour moi, le Real, c'est aussi ou Erling Haaland l'année prochaine
crois,
et encore. Pour revenir sur le PSG, il y a un petit détail.
Alors, le Paris Saint-Germain.
Ouais, j'ai pensé hier, en fait, tout simplement.
C'est quoi?
Il y a plein d'équipes en Ligue des Champions, le Bayern, Real Madrid, City, Chelsea, Inter Milan, AC Milan, etc., qui sont juste habitués, mais c'est dans leur histoire, dans leur veine, et ça coule dans leur sang, à partir de avril, mai, continuer à jouer la Ligue des Champions. Non. Le PSG ne connaît pas ça, mais depuis. Et en fait, en me disant
ça. Ça fait longtemps.
Finalement, le Bayern, mais c'est différent.
En me disant ça, c'est pour ça qu'on
parle de la Ligue des Champions.
Djouba, et même moi, je l'avoue, vous pouvez réécouter les chroniques des jours passés. J'ai dit, voilà, le PSG, février, vont se reconstruire une armure, un bouclier, une épée, etc. Mais en fait, le PSG, mine de rien. Mais ça fait depuis la création qu'ils sont pas habitués en avril à jouer la Ligue des Champions.
C'est-à-dire que même si l'équipe,
ça fait 3 ans qu'ils ont pas connu un vrai beau parcours, même si en général, bon, c'est quart, les huitièmes minimum ou des trucs comme ça. Malgré tout, il y a un moment où le PSG s'arrête, et ça depuis à peu près la nuit des temps où ils existent. Donc tout simplement, pour moi qui étais assez optimiste en début d'année, en ayant eu cette réflexion-là de me dire, mais purée les mecs, même si l'équipe a un peu changé, il y a quand même des cadres qui n'ont pas vu le bout du nez de la Ligue des Champions. Quoi. Moi c'est un truc qui me rend super triste.
On a un bilan pour le Paris Saint-Germain. Oui,
il y a un truc qui est tu penses que tu voulais enchaîner dessus. Il y a aussi un contexte extrasportif qui aussi frappe le Paris Saint-Germain. En ce moment, on l'a vu avec Alexandre Letellier, etc. Ça peut aussi jouer pour
Doucement, tranquillement, Djouba. C'est la dernière partie de cette émission, Djouba. C'est pas comme la géopole, là. Il faut aller lentement, quand même. C'est le sport.
Ouais, mais il y a aussi ce contexte-là qui joue.
Justement, le contexte. Mais toi, tu vas plus vite que la musique, comme à ton habitude, Djouba. La musique que tu aimes tant. L'un des gardiens du Paris Saint-Germain, on le rappelle, Djouba. Alexandre Letellier a été séquestré. Eh oui, Ryan. À son domicile, à Hardricourt, dans les Yvelines, en région parisienne, en compagnie de sa compagne et ses deux enfants. Trois personnes ont tout de même été interpellées. Tariq, réaction peut-être. C'est vrai, on est hors des stades.
C'est
là,
pas
encore
la première
fois
qu'on voit ça.
Déjà, grosse force à lui et à sa famille.
Supporter du Paris Saint-Germain, supportrice aussi.
Bien sûr. Le truc qui est triste, c'est qu'on a l'impression que plus le temps passe et plus ça se répète.
Malheureusement.
Oui, c'est pas le premier.
On a eu l'expérience avec Marquinhos en plus.
C'est vrai.
Bizarrement, ce qui a suivi après là, ce qui s'est passé avec ses parents, ils ont séquestré ses parents. Bizarrement, c'est là où il a commencé sportivement à décliner.
On est d'accord, Tariq,
et à le voir un petit peu psychologiquement être moins bien. Il y a eu le cas Di Maria aussi. Là, on a ce cas-là. Je sais qu'à Marseille aussi, il y a souvent des histoires comme ça. Et c'est grave ce qui se passe. Et malheureusement, plus le temps passe et plus on a l'impression que c'est répétitif. Je sais pas quelle solution il peut y avoir.
Là, les solutions, il faut les apporter justement.
Et d'ailleurs, le Paris Saint-Germain.
Je pense que c'est au club de gérer ce truc-là, la sécurité des joueurs. Je pense que.
Et d'ailleurs, justement, le Paris Saint-Germain a demandé à ses joueurs de rester chez eux dans le cadre de ce qui s'est passé.
Chez eux, alors ils
sont
plus.
Ils ont demandé de rester à leur domicile. C'est l'impôt qui est tombé tout à l'heure. Donc
là, moi, je trouve. Alors, Ryan. Moi, ce que je trouve encore plus désolant pour le cas Letellier, et encore une fois, ça ne doit arriver à personne. Mais c'est le fait qu'il ne joue pas. Et en plus de ne pas jouer, de ne pas avoir de minutes, je me demande pourquoi en fait ils ont fait ça à Letellier.
Pour l'argent. Une tentative d'extorsion. Pour l'argent. Sous la menace.
Il dit joueur de foot est égal à argent, et donc il va aller chercher un gars.
Heureusement que lui avait une alarme et que la police a pu être prévenue rapidement.
Et j'ai une question, c'est des mineurs à part. Enfin,
il y a deux mineurs de 15 ans.
C'est hallucinant. Et on pense fort à sa femme aussi, qui apparemment a reçu un coup de poing, plusieurs coups portés à la tête, alors qu'elle avait son enfant de 2 ans dans les bras.
Cette image, elle est horrible. Cette image qui fait froid dans le dos. C'est vraiment cette image de la mère de famille qui a un gosse de 2 ans dans les bras, qui se retrouve prendre un coup de poing, qui se retrouve attaché et qui est obligé de donner ses codes, qui est obligé de donner ses
billets.
3 des 4 suspects ont été interpellés.
Exactement.
La frustration d'Alexandre Letellier quand il a vu ça.
Putain, moi c'est ça, c'est vraiment ce genre de choses qui me.
Ouais. Vous imaginez les gars, le mec il était impuissant.
Qui me rend malade et qu'on parle. Voilà, on parle d'un joueur de football, donc on vient en parler. Mais quand on parle de solutions, pour moi c'est pas que au club, tu vois. Il y a les clubs qui doivent mettre peut-être certaines choses en chose. Mais voilà, c'est pour moi ça remonte plus haut, ça remonte au niveau des politiques. Ça revient à la politique intérieure, effectivement, Jouba, mais aussi à la préfecture, aussi à la mairie, à la région, au département, etc. Et tout, de mettre des choses en place pour les personnes qu'on peut dire à risque, entre guillemets, c'est-à-dire les personnalités publiques qui peuvent vivre dans ta ville, dans ta région, en mettant de la sécurité à des endroits. Alors après, c'est de l'argent public, ça va coûter cher, ça va coûter de l'argent. Donc est-ce qu'on demande au club de gérer la sécurité de ces joueurs-là en mettant des agents de sécurité avec leur famille lorsqu'ils sont pas au match? Mais c'est compliqué, c'est des dépenses, tout le monde pourra pas le mettre en place. Donc c'est beaucoup de questions et c'est très dur à répondre parce que c'est un sujet qui dure depuis des années, qui dure des années, puis dans le football.
On a pris l'exemple de Marseille,
on peut prendre l'exemple dans plein d'autres clubs également.
On a Nabil qui nous dit, c'est vraiment chaud pour le football français, pas que pour le football français, c'est peut-être un effet de mode malheureusement en Europe dans les grands championnats européens. Jouba, un instant Jouba, et on nous dit peut-être les joueurs devraient prendre des gardes du corps personnels.
C'est une
bonne idée. Sonal, réaction.
Bien sûr, vous évoquez les gardes du corps, mais pour moi, il y a quelque chose qui est important, c'est le suivi qu'il va y avoir après. Si vous écoutez, AVS, tout simplement, votre santé avec Philippe Robichon sur Beur FM, il y a pas mal de psychologues qui parlent de l'importance du suivi.
Et on avait reçu des psychologues du sport, des personnes travaillant avec ces athlètes et aussi professionnels du foot.
Et c'est super important parce qu'en général, c'est des choses qu'on oublie, peut-être pas. Parce qu'on se pense surpuissant ou quoi, mais je vous mens pas, les amis, des professionnels comme ça qui savent faire leur métier, qui ont fait des études, ils sont là aussi pour soit écouter ou bien juste voilà, si vous avez, pour n'importe quoi. Je pense que c'est intéressant, même pas, c'est pas le mot choisi, mais c'est important que c'est Alexandre Letellier, c'est ça, consulte des gens dans les suites de ce qui s'est passé, parce qu'on parle quand même quelque chose de grave, des images qu'il va garder en tête, pas seulement pendant une semaine là où juste nous on les voit sur les réseaux sociaux, deux jours après on a une autre image qui nous vient en tête. Lui, c'est vraiment des images qui vont le marquer pendant un an, deux ans, trois ans, sa famille aussi, ses enfants. Donc c'est important qu'il aille voir des gens, je pense.
Syndrome post-traumatique,
c'est ça. Moi je pense que le traumatisme, nous on subit juste un petit truc dans notre vie. Je pense qu'on est aussi traumatisé pour des petites des choses qui sont beaucoup moins graves que ça, mais le fait, juste le contexte de re-rentrer chez toi avec ta femme, tes enfants, tu te sentir, je pense, même avec je sais pas combien de gardes du corps, il faudra très longtemps pour se remettre de ça, pour te ressentir en sécurité. Des fois t'as même besoin carrément de changer de contexte, t'en as d'autres, ils veulent partir du club, etc. C'est très compliqué, c'est des scènes qui concernent les joueurs dont on parle, parce que c'est des personnes connues, mais ça concerne la société en général, et c'est ça qui est plus inquiétant.
Que le foot est un miroir grossissant de la société, donc ce qui se passe dans la société se passe aussi dans le football, et souvent de manière un peu plus exacerbée, et donc voilà, donc si les réponses elles sont d'abord à fournir politiquement, ramener le peuple à la raison avec des mesures politiques qu'on doit avoir aujourd'hui en France, ne pas monter les uns contre les autres avec des situations dantesques et puéril comme on voit aujourd'hui dans le débat public, et donc le foot s'en portera forcément beaucoup beaucoup mieux si on apaise le pays avant toute chose.
Et ben voilà Jouba, c'est bien dit ça.
Non mais c'est important parce que on pense que le foot est déconnecté de la société. Le foot est un reflet de la société, et comme il est réduit, et ben c'est l'effet multiplicateur est beaucoup plus prononcé. Donc apportons des solutions politiques, cessons de monter les gens les uns contre les autres, les renvoyer à une question identitaire en permanence. Arrêtons de donner le pouvoir à l'extrême droite de manière tacite dans ce pays.
Jouba, les informés sont terminés. Demain 19h, Jouba.
Écoutons Vanessa parce que Vanessa
va
vous apaiser.
Merci à Vanessa qui arrive. Voilà Jouba, il a bien compris. Jouba, merci pour cette tribune. Jouba, peut-être ce coup de gueule en toute fin d'émission. En tout cas, elle est bien passée, Jouba. Tu as de la chance.
C'est une meilleure fin d'émission.
Merci à Farid. À Tariq. Farid, il doit nous écouter, à mon avis.
On l'embrasse, Farid. Bien sûr qu'on l'embrasse. On a gagné, Farid.
D'avoir été avec nous. Merci à toi, Tariq.
Merci
à Ryan aussi.
Merci
d'avoir accompagné Ryan. À Benji aussi, d'avoir été avec nous. Benji,
merci à toi, Bilou.
Jouba, merci les gars.
Bonne soirée.
Sans oublier Solal, qui va rester avec Vanessa jusqu'à 23h. Et nous, on revient dès demain. Bye bye.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h.